La baleine à cabosse, c'est une des vraies chocolateries de Marseille. Nous verrons dans un instant pourquoi. Aurélien, selon vous, qu'est-ce qu'un bon chocolat ?
Un bon chocolat, c'est d'abord un chocolat qui plaît à celui qui le mange. Quand j'étais un petit garçon, c'était un chocolat blanc industriel, le Galak, que m'offraient mes grands-parents régulièrement. Après, il y a plein de manières de faire un bon chocolat. Un bon chocolat, c'est un chocolat qui est précis dans ses notes aromatiques et qui est bien travaillé depuis l'arbre jusqu'à la tablette, et ça demande plein de compétences, du planteur, du producteur de cacao, jusqu'à nous, les chocolatiers.
Votre arrivée dans le monde du chocolat est peu ordinaire. Vous nous la racontez ?
Alors, c'est beaucoup le hasard qui nous a conduit à faire ce métier. Avec ma compagne Claire, on n'est pas du tout artisan ni chocolatier de formation. On a plutôt des métiers de chargé de mission. On était beaucoup dans des bureaux. Des métiers qui nous intéressaient, dans lesquels il y avait du sens. On n'avait pas marre de nos emplois, mais ça faisait 5 ans qu'on travaillait. On avait envie de voir autre chose, donc on s'est dit, on prend une pause et on part. Peut-être qu'on reviendra à nos emplois précédents, peut-être qu'on fera autre chose. Donc on a mis plusieurs noms de pays dans un chapeau, puis on a tiré, et c'est la Colombie qui est sortie. Donc on est parti en Colombie, mais avec aucune attache dans le pays, on connaissait évidemment rien ni personne là-bas. Et on a commencé à faire du tourisme et des bénévolats dans des plantations de café, notamment. La Colombie est connue pour ça. Et en travaillant dans le café, on s'est rendu compte qu'il y avait une plantation de cacao qui était adjacente. Et donc on est allé la visiter un soir par curiosité. Et on est tombé sur les cabosses de cacao, les différentes couleurs, les différentes tailles. Et on s'est retrouvé bien bête, on était incapable de citer un nom de variété de cacao. Et par ailleurs, le producteur de cette plantation nous a fait goûter des fèves de différentes cabosses et nous a fait faire du chocolat de manière très brute de décoffrage. C'était avec des petites machines manuelles, la torréfaction à la poêle. On touillait tout ça à la cuillère, on mélangeait le sucre et le cacao. Tous les ingrédients y étaient, mais ça ressemblait clairement pas au chocolat qu'on a l'habitude de manger. On s'est dit, mais c'est un produit complètement différent. Donc on s'est demandé pourquoi on connaissait aussi mal le chocolat. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, les chocolatiers ne font pas leur chocolat. Le chocolatier, aujourd'hui, est plutôt confiseur, donc il achète du chocolat qui est déjà fait, et il va ensuite le travailler, faire des pralines, des ganaches, des sculptures en chocolat. Mais travailler la fève de cacao, c'est réservé aux industriels. Il n'y a aucun artisan, quasiment, qui fait ça. Donc on a décidé de faire ce métier-là. On était 20 en France quand on a démarré il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est 60. Donc ça se développe, un peu comme les bières artisanales. Des gens qui ont envie de travailler les matières brutes, la matière première, et de comprendre aussi ce qu'on mange.
Et pourquoi la baleine à cabosse ?
En Colombie, on a eu la chance de voir des baleines à bosse sur la côte pacifique où on était. Nous, on était dans les plantations de cacao toute la journée. Et du coup, c'est devenu le chocolat, le fil rouge de notre séjour en Colombie qui a duré plusieurs mois. Et en fait, la cabosse, elle a une forme de baleine à bosse. Donc la baleine à bosse qu'on a vue s'est transformée en cabosse. Et par ailleurs, ma compagne est tombée enceinte quand on était là-bas, donc on est revenu avec une entreprise, mais aussi un bébé. Et du coup, c'est un conte pour enfants que j'avais écrit, en fait, la baleine à cabosse. On a bien aimé la baleine, on l'a gardée pour le nom de l'entreprise. Ça nous permet d'expliquer ce que c'est une cabosse, souvent les gens ne le savent pas.
Alors, parlons de votre chocolaterie maintenant. Ce qui m'a frappé tout à l'heure, en entrant, comme à chaque fois que j'entre chez vous, c'est l'odeur du chocolat. C'est plutôt bon signe, mais une odeur vraiment envoûtante.
C'est vrai, c'est un retour qu'on a souvent. La moitié des clients qui rentrent chez nous ouvrent la porte en disant « Oh, qu'est-ce que ça sent bon, qu'est-ce que c'est agréable ?» Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, quand on torréfie des fèves de cacao, ça sent le gâteau au chocolat pendant plusieurs heures dans toute la boutique. Il y a une fontaine à chocolat qui est là aussi, qui brasse du chocolat toute la journée. Ça développe des arômes et puis on a surtout des meules en pierre, qu'on appelle des conches, qui vont écraser le cacao, le mélanger au sucre pendant 48 heures. Et tout ça, ça donne des parfums, ce qui fait que quand on sort du travail, nos habits sentent le chocolat. Il est pas rare que quand on arrive au restaurant, que les gens se retournent, et plusieurs fois on nous a dit « Mais c'est vous qui sentez le chocolat, comment ça se fait ?» Ça amène souvent des discussions assez amusantes.
Parlons enfin de vos chocolats. Est-ce qu'il y en a dont vous êtes particulièrement fier ? Est-ce que vous proposez des associations insolites, par exemple ? Racontez-nous ce qu'on trouve à l'intérieur de la baleine à cabosse.
Alors on est avant tout sur des chocolats bruts. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de transformer des fèves de cacao et de les mélanger avec du sucre, de faire du chocolat nature. Et juste en faisant ça, on va avoir des notes aromatiques très différentes, comme le font les vignerons avec leurs raisins. Donc c'est ça notre fierté, c'est avant tout d'avoir une palette aromatique très large en utilisant finalement très peu d'ingrédients. On est une chocolaterie dans laquelle on a peu de matières premières qui arrivent. On a des fèves qui viennent de plusieurs endroits, du sucre, des fruits secs, quelques épices, et c'est tout. Donc des chocolats dont on est fier, on en a plusieurs évidemment. Moi j'en aime bien deux qui viennent du Mexique, parce qu'ils viennent du même endroit, de la même ferme. C'est deux variétés différentes, mais qui sont travaillées exactement au même endroit. Et c'est des chocolats qui n'ont rien à voir. Il y en a un qui est à 85%, le Elvado, qui est puissant, qui est très bien équilibré, et qui est un petit peu épicé. C'est vraiment l'archétype du chocolat noir d'enfance. Et l'autre chocolat qui s'appelle la Rioja, c'est une fève qui est presque blanche, qui s'appelle la porcelaine blanche, c'est un très joli nom d'ailleurs. Là on le fait à 70%, et c'est un chocolat qui est acidulé avec un goût de framboise. C'est un chocolat noir, mais qui a une couleur de chocolat au lait. Souvent les clients s'y trompent. C'est pour montrer qu'en fait, à l'échelle d'un pays, et même à l'échelle d'un terroir, d'une toute petite parcelle, on peut avoir une diversité très importante de cacao. On en a un autre, c'est un chocolat au lait pour le coup. avec une infusion à l'intérieur. Une infusion japonaise qui s'appelle du sobacha, c'est des toutes petites graines de sarrasin, très torréfiées. Et ça, c'est notre vendeuse de thé, puisqu'on vend du thé à la chocolaterie, qui nous appelait en disant « j'ai une infusion, mais qui peut se croquer ». Alors, peut-être qu'avec le chocolat, ça peut être intéressant. On a mélangé ça avec le chocolat au lait, et ça apporte un croustillant et une gourmandise, et puis un accord cacao-sarrasin. C'est un de nos best-sellers aujourd'hui.
Vous n'êtes clairement pas dans la recherche de l'originalité permanente, coûte que coûte, avec, comme on peut voir parfois, des associations farfelues.
Quand on fait des associations, c'est toujours suite à des rencontres. C'est beaucoup comme ça qu'on travaille. J'en ai un qui me vient parce que notre partenaire est passé tout à l'heure à la chocolaterie. C'est un chocolat fumé. Ça faisait longtemps qu'on voulait le travailler, mais on n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Et puis sur un marché, un jour, on a rencontré un artisan marseillais, très haut de gamme, qui fume des saumons, qui fume des magrets. Et ça faisait un moment qu'on voulait nous fumer le cacao. On en a parlé, on lui a passé plusieurs kilos de fèves de cacao déjà torréfiées, déjà concassées, avant qu'elles passent dans les meules en pierre. Et puis on a fait plusieurs tests, et on est arrivé à un résultat qui est intéressant. On fume le cacao pendant 6 heures, d'abord au bois de cerisier, et ensuite à la tourbe. On récupère le cacao, et ensuite on fait du chocolat classique. Donc il n'y a aucun élément qui est rajouté, il n'y a aucun ingrédient rajouté, il y a du cacao, du sucre. Et on a un chocolat qui se marie parfaitement avec des whisky tourbés, avec des spiritueux. C'est un chocolat qui emmène sur un univers salé, alors que c'est toujours un produit, un chocolat sucré.
Quels sont vos liens avec les producteurs? J'imagine qu'ils sont très forts. Est-ce que vous vous déplacez par exemple? Est-ce que vous allez dans les pays?
Oui et non. On a des liens forts avec nos producteurs colombiens qu'on a rencontrés, chez lesquels on a passé du temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de partir plusieurs mois dans tous les pays. Donc on travaille avec des gens qui sont essentiels, qui sont les sourceurs de cacao. On a de la chance, on a une qui habite à Marseille. Donc ça, c'est des gens qui vont faire le tour du monde, aller rencontrer des petits producteurs, rencontrer des petits chocolatiers partout en Europe, et faire le lien entre ces deux univers qui demandent beaucoup de logistique. La mise en container, les droits de douane, et au-delà de ça, le montage de projets sur le terrain qui ont du sens économiquement, socialement et écologiquement, on va dire.
La dimension éthique est assez forte dans votre démarche.
Alors, pour faire du bon chocolat, il faut un bon chocolatier et il faut un bon producteur de cacao. Sans du bon cacao, bien récolté, bien fermenté et bien séché, on ne pourra jamais faire du bon chocolat. Donc on a besoin de connaître nos producteurs et de travailler avec eux de manière éthique pour qu'ils aient une vraie plus-value dans le métier. Donc on a des prix, par exemple, qui sont fixés à l'année sur les fèves de cacao. Le cacao, c'est un produit qui est coté en bourse aujourd'hui. Mais nous, comme on demande des fèves haut de gamme, on paye des fèves beaucoup plus chères que le prix de la bourse. Et on se fixe un prix à l'année. Si ça monte, si ça descend, au moins tout le monde est d'accord sur le prix, puis on renégocie éventuellement. Si vraiment les cours ont beaucoup évolué, mais on est très peu impacté par les évolutions des cours du cacao en bourse. On a l'impression de défricher en fait beaucoup. Hein. On n'est pas les seuls du tout. On n'est pas non plus en train de sauver le monde, on est petit. Mais si on est plusieurs à tirer dans le même sens, ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Et pour les consommateurs et pour les producteurs de cacao.
Est-ce que les bouleversements climatiques ont un impact sur la production de cacao?
Les nuages sont plutôt sombres hein, dans les annonces, dans les reportages, dans les retours qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trois quarts du cacao, ça vient de Côte d'Ivoire et du Ghana, de seulement deux pays, sur lesquels on a des parties désertiques qui avancent. C'est pour ça qu'on parle souvent de pénurie à venir du chocolat. Ça, c'est à croiser avec la demande en chocolat qui augmente en Chine, notamment. Quand on confronte l'offre qui risque de diminuer et la demande qui augmente, on a des prix qui peuvent voler un petit peu haut. Mais je pense que c'est un problème qui va se régler naturellement, dans le sens où si les prix augmentent, il y a plein de pays qui aujourd'hui produisent peu de cacao. Je pense à l'Asie, c'est un nouveau terroir de cacao, le Vietnam, le Cambodge. Je pense aussi à toute l'Amérique du Sud, hein. Aujourd'hui c'est des petits producteurs, la Colombie ce qu'on a vu, mais qui pourraient planter beaucoup plus de cacao. Donc en fait, il y a des agriculteurs partout dans le monde qui vont se dire, bah tiens, le cacao c'est intéressant, je commence à en planter. Voilà. Donc ça va se réguler à mon avis dans le temps.
Alors l'étape d'après, c'est de venir goûter votre chocolat. Vous êtes à une poignée de minutes de l'hôtel à pied.
Donc on est effectivement en plein centre-ville de Marseille. Là, je vous invite à venir nous rencontrer. On est petite équipe de 5 personnes, donc on est sur place avec ma compagne Claire du matin au soir. C'est nous qui fabriquons et qui vendons. C'est un point qui est important dans notre équipe d'ailleurs. Tous nos salariés fabriquent et vendent. Ils sont plus à même d'en parler, de partager. Et on aime beaucoup accueillir du monde, des groupes, des enfants, des personnes âgées, des familles, pour leur expliquer comment faire du chocolat. Et en fait, le principe, c'est qu'on voulait vraiment s'implanter en centre-ville pour que tout soit donné à voir. Les machines, les sacs de fèves qui passent, les emballages, toutes les étapes de fabrication. Donc le laboratoire est derrière une verrière. On peut nous voir travailler, on peut voir les sacs qui passent, le chocolat en train de couler des différentes fontaines, les fèves en train de torréfier, tout ça est visible. Soit de manière informelle si vous passez à l'improviste, soit de manière plus formelle pour des visites, pour les groupes qui réservent, ou même pour des ateliers qui sont plus longs, qui durent 1h30, au cours desquels on va mettre le tablier et fabriquer ensemble du chocolat, de la fève à la tablette.
C'est finalement le paradis du chocolat. On goûte, on sent, on regarde, on touche du chocolat, et c'est rue Paradis, sur le Vieux-Port de Marseille. Merci Aurélien.